France Inter.
Bienvenue à tous. Au sommaire ce soir, François Bayrou ouvert un peu au compromis pour sauver son gouvernement. Il estime désormais discutable et même amendable sa proposition de faire travailler les Français 2 jours de plus. Le verbatim dans un instant avec Sonia Goubry. Le Premier ministre a-t-il été convaincant? Eh bien, nous poserons la question à notre invité, le député socialiste du Calvados, Arthur Delaporte. La rentrée scolaire reportée à mardi dans le Var et les Bouches-du-Rhône à cause du mauvais temps prévu. Une rentrée scolaire en France avec son lot d'innovations, notamment sur l'intelligence artificielle. Nous irons dans la Creuse pour la fermeture ce soir d'une ligne TER, une nouvelle disparition du rail, symbole de la désertification du territoire. Aux États-Unis, le maire démocrate de Chicago n'accepte pas le déploiement de la police fédérale dans sa ville pour mieux contrôler l'immigration au nom de l'administration de Trump. Eh bien, l'élu local ordonne à sa police locale de ne pas coopérer avec les fédéraux. En sport, les volleyeuses françaises viennent de réaliser l'un des plus grands exploits de leur histoire. Elles se sont qualifiées pour les quarts de finale du mondial en battant la Chine. C'est une première. Et puis le temps de demain, lundi, Céline Dacosta, je vous le disais, 10 départements du Sud-Est seront en vigilance ce soir et demain, vigilance aux orages.
Oui, avec encore de forts orages attendus sur le Languedoc, l'ouest de la région PACA et le sud de la région Rhône-Alpes.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Une heure pour convaincre et ça dure encore. François Bayrou dans son bureau de Matignon face à 4 journalistes des chaînes d'info en continu. Certainement pas un testament politique, a-t-il dit en ouverture. Depuis 18 heures donc, le Premier ministre tente un nouvel exercice de pédagogie pour faire accepter son plan qui, vous le savez, risque de lui coûter son poste le 8 septembre prochain si, comme cela se dessine mathématiquement, le RN et l'ensemble de la gauche ne lui accordent plus leur confiance. Sonia Goubry, bonsoir.
Bonsoir.
Service politique de France Inter. Cela dit, François Bayrou s'est dit ce soir encore ouvert au compromis et même à la négociation.
Oui, déjà sur la suppression de 2 jours fériés qui s'est imposée comme la mesure emblématique de son projet de budget présenté mi-juillet. Mesure très contestée dans l'opinion publique. Alors le Premier ministre veut calmer le jeu. C'est tout à fait discutable, amendable. Pareil pour la taxation des plus riches réclamée par la gauche. J'ai non seulement ouvert l'idée, mais aussi la perspective, se défend François Bayrou. Il répond aussi au Rassemblement National. Non, je ne suis pas d'accord pour qu'on fasse de l'immigration la cause de la situation du pays. Mais après, il ajoute qu'il accepte de passer en revue les dépenses sur l'immigration.
Il accepte quelques pistes, mais enfin pour le reste, François Bayrou est plutôt resté fermé.
Oui, sur le montant des économies à faire sur le prochain budget, 44 millions d'euros, c'est l'ordre de grandeur. Allez, 42 milliards, mais pas plus. Maintient François Bayrou, c'est la marche à suivre pour sortir de la malédiction immédiate de la dette. Il balaie par la même occasion la proposition du Parti Socialiste de réduire le déficit de 21,7 milliards d'euros en 2026. Puis François Bayrou n'en démord pas. La dette, c'est de la faute à tout le monde. Ce soir, il prend à témoin les Français qui, selon lui, n'ont pas encore pris la mesure de la situation financière de la France. Alors il appelle à la responsabilité collective. Message qu'il adresse notamment aux seniors. Ses derniers propos ont fait polémique. Alors François Bayrou assume, mais pèse ses mots. Les boomers doivent être avec lui pour faire baisser la dette pour les plus jeunes.
Sonia Goubry, service politique de France Inter. Et bonsoir Arthur Delaporte.
Bonsoir.
Vous êtes député socialiste du Calvados. Ce matin, Olivier Faure, à la tête de votre parti, disait que la décision des socialistes de voter contre la confiance à François Bayrou était irrévocable. Est-ce que l'intervention télévisée du Premier ministre à l'instant, a fait bouger vos lignes.
Quand on a un Premier ministre qui dit que les propositions du PS sont les plus éloignées de ses positions, je crois qu'il balaie avec mépris le travail sérieux d'alternatives budgétaires qu'on a pu faire. Donc oui, il n'y avait pas de doute sur nos positions. Nous avions dit que nous lui refusions notre confiance car il n'avait généré que défiance. Mais ce soir, je vois aussi quelqu'un qui est emmuré dans ces espèces de certitudes, qui ne veut pas changer de politique et nous devrons donc changer de Premier ministre.
Enfin, il affirme tout de même ce soir qu'il trouve discutable et même amendable son idée de faire travailler les Français 2 jours de plus. Pourquoi ne relevez-vous pas cette main tendue ?
Non mais attendez, vous voyez bien qu'il répète la même chose qu'il a dit en boucle tout cet été. Il est prêt à changer un jour férié pour un autre, et ce n'est absolument pas le sens d'un projet de gouvernement et d'un projet de budget. Il a même dit que on ne pouvait négocier que si on était d'accord sur le constat. Il s'arc-boute là-dessus. Il dit, bon, c'est peut-être pas 44 milliards, c'est peut-être 42, mais vous voyez, aujourd'hui, il a pour objectif de faire passer une position budgétaire amère à l'État. Nous proposons une alternative qui ne fasse pas peser l'effort sur les catégories populaires et sur les travailleurs. Il refuse de considérer cette alternative et il sera donc démissionné de son propre fait la semaine prochaine. Je prouve que on devrait plutôt commenter son mépris que ses tentatives d'ouverture qui n'existent pas.
Le PS a proposé un contre-budget 2026 en divisant par deux les restrictions budgétaires de François Bayrou. Le Premier ministre a dit ce soir que le plan socialiste ne fait rien pour réduire la dette. Comment le prenez-vous ?
Eh bien, c'est un Premier ministre qui est emmuré dans ses certitudes. Vous voyez que notre plan, il est sérieux. Il est sérieux pourquoi ? Parce qu'on va aller chercher des recettes nouvelles sur les plus riches, alors que François Bayrou ne va chercher des recettes nouvelles que sur les plus pauvres dont il augmente les impôts. Nous proposons par ailleurs d'investir pour l'avenir, ce que ne fait pas François Bayrou. Et je crois qu'il n'y a pas de projet budgétaire sérieux si ce n'est pas un projet qui permet d'encourager la croissance. Or, nous investissons dans la transition écologique, par exemple. Vous voyez, on a réfléchi, on a travaillé tout l'été, et François Bayrou, lui, s'est enfermé dans une posture d'idéologue, d'espèce de messianiste de la dette. Mais aujourd'hui, la dette, aujourd'hui, c'est une trajectoire budgétaire soutenable. C'est ce que nous proposons. Et c'est à horizon 2032 que nous aurons atteint les 3% d'équilibre, ce que François Bayrou, lui, veut atteindre seulement 2 ans plus tôt. Donc vous voyez que la différence n'est pas majeure. Par contre, on a une alternative à mettre sur la table. C'est pour ça qu'on dit, aujourd'hui, il n'y aura plus le même Premier ministre, mais il y aura une autre politique. Et nous nous proposons pour l'incarner.
Vous dites que votre plan budgétaire est sérieux. C'est aussi une menace pour les plus riches, avec notamment la taxe Zuckmann. Une menace sur les investissements en France, disait ce soir François Bayrou. Menace ou pas pour les plus riches ?
Vous savez, on disait ça aussi quand François Hollande est arrivé au pouvoir, qu'il allait faire fuir les grandes fortunes. Moi, je me souviens juste que c'est sous les socialistes, sous Lionel Jospin et sous François Hollande que la situation budgétaire s'est améliorée les deux dernières fois. La trajectoire des finances publiques était saine. Et pour autant, les plus riches sont restés. Donc, il ne faut pas avoir peur aujourd'hui de revenir en arrière sur les cadeaux fiscaux qui ont été faits par Emmanuel Macron. Ces 60 milliards d'euros qui, chaque année, ont été privés des recettes de l'État et qui doivent être demain récupérés en partie au moins.
Donc, le PS reste ce soir sur ses positions. À quoi va servir la consultation de la délégation socialiste qui va se rendre jeudi à Matignon, Boris Vallaud en tête ?
Ben la délégation ira parce que quand on est invité par le Premier ministre, on répond poliment, c'est une courtoisie républicaine, mais nous irons lui dire pourquoi nous ne voterons pas la confiance, pourquoi nous voterons contre la confiance qu'il sollicite, parce qu'il a sollicité à aucune manière les socialistes pendant l'été, parce qu'il n'a fait que rester dans son bureau à construire un château de cartes budgétaires dont il était certain qu'il serait le terreau de sa propre chute. Et donc aujourd'hui, oui, nous allons lui confirmer cela par politesse, mais je ne vois rien d'autre possible à ce stade.
Il nous reste quelques secondes. Le PS, volontaire pour que le prochain Premier ministre soit issu des rangs de la gauche, dans l'éventualité d'une chute de François Bayrou. Qui, à gauche, aurait le profil idéal pour occuper Matignon ?
On n'est pas là pour faire un casting. Vous savez à quel point, la dernière fois, Emmanuel Macron a nommé ce qu'il souhaitait. Donc, c'est son pouvoir constitutionnel. Demain, il a l'embarras du choix à gauche. On a un vivier de candidats potentiels à Matignon, de profils intéressants et prêts à gouverner. Et donc, nous disons juste que ce qui compte, c'est l'alternative politique que nous incarnons et notre capacité, nous, à aller rechercher des compromis.
Merci.
Par exemple, en renonçant au 49-3.
Merci beaucoup, Arthur Delaporte, pour ces commentaires à chaud. Le Premier ministre est toujours avec les journalistes dans son bureau de Matignon. Arthur Delaporte, député socialiste du Calvados.
France Inter, Éric Delvaux.
La rentrée scolaire échelonnée à partir de demain pour 12 millions d'élèves et dans les Bouches-du-Rhône et dans les Var. Dans le Var, compte tenu des très mauvaises conditions météorologiques dans le sud, la rentrée est reportée à mardi au nom du principe de précaution. Une rentrée scolaire en France avec de nouveaux programmes, notamment en mathématiques et en français pour les élèves de primaire, de l'éducation affective et sexuelle. Pour les élèves de première encore, une nouvelle épreuve de bac en mathématiques. Et puis, autre nouveauté, Sonia Princey, bonsoir. Vous êtes notre spécialiste éducation à France Inter. Ça concerne l'intelligence artificielle à l'école. Ça va faire l'objet de formations, non seulement pour les élèves, mais aussi pour les professeurs.
Dès cette rentrée dans les établissements scolaires volontaires, les élèves pourront se former sur PIX, une plateforme de certification des compétences numériques, pour mieux maîtriser les usages de l'intelligence artificielle. Ce sera obligatoire pour les classes de 4e et de 2e, une démarche aujourd'hui indispensable selon Nicolas Henry, professeur de mathématiques en lycée.
Parce que c'est un outil nouveau que nous ne maîtrisons pas du tout complètement, mais nous avons vu surtout l'année dernière que c'est un outil auquel les élèves en fait font référence systématiquement, que ce soit pour réviser, pour apprendre, pour le moindre travail qu'on peut leur demander. En fait, ils ont maintenant le réflexe d'aller interroger l'IA.
Les enseignants seront également formés. Justine Zapata, jeune professeure en filière professionnelle, ne voudrait pas rester à la traîne.
Moi, j'aimerais bien être formée, en tout cas, puisque les élèves l'utilisent de plus en plus. Ça peut être un outil intéressant si on sait, comme tous les outils, s'en servir. Si l'intelligence artificielle a des moyens d'apporter des connaissances aux élèves et qu'après, ils puissent les reformuler, les réutiliser pour l'apprentissage, moi, je trouve ça très intéressant et j'aimerais bien mettre en application.
Le ministère de l'Éducation nationale a aussi prévu de mettre à disposition des professeurs un outil d'intelligence artificielle pour les aider notamment à repérer là où les élèves ont des difficultés, mais ce ne sera pas avant le printemps 2026.
La rentrée scolaire qui est donc reportée à mardi dans le Var et les Bouches-du-Rhône à cause des intempéries la nuit prochaine et demain. Par ailleurs, les transports en commun seront gratuits pour les moins de 11 ans et les plus de 65 ans à partir de demain et dans les 92 communes de la métropole ex-Marseille. Encore un exemple. Exemple de la désertification du rail en région, et c'est dans le département de la Creuse qui perd ce soir l'une de ses lignes TER jugées trop vétustes entre Guéret et Felletin. Le coût des travaux de rénovation serait trop important selon la compagnie ferroviaire. Cette petite ligne était pourtant défendue par 32 000 signataires d'une pétition. Plusieurs élus locaux se sont mobilisés pour la soutenir. Et bien ce soir, c'est la résignation, Marie-Jeanne Delepol.
Prendre le train pour aller voir sa fille à Felletin, ce sera bientôt de l'histoire ancienne pour Catherine, cette habitante de Marsac et dépitée.
Je pense que c'est très dommageable pour la population, pour la Creuse, pour l'économie, pour tout.
Et parmi les conséquences économiques, un manque à gagner pour le seul hôtel de Felletin, le relais du parc de 1000 vaches, son patron Didier Dez.
Nous, on loge deux agents tous les soirs, le conducteur du train et le contrôleur du train. Deux chambres à chaque fois. Donc ça fait un gros impact, oui, bien sûr.
Sans compter les impacts écologiques, regrette François Landry, un creusois très attaché au train. C'est lui qui a lancé la pétition de soutien à cette petite ligne de TER.
On est en machine arrière toute de ce qu'ils nous disent en fait à longueur de journée. On est en pleine transition écologique, il faut des mobilités douces, prendre les transports en commun, donc c'est incompréhensible.
Lui ne croit pas du tout à une possible réouverture de cette ligne un jour par la SNCF, contrairement au maire de Felletin, Olivier Cagnon.
On va se battre pour que, d'une part, elle continue d'être entretenue et qu'elle ne soit pas démantelée, et d'autre part, pour que des trains reprennent la circulation un jour ou l'autre.
Il attend donc les résultats d'une étude de faisabilité demandée par les élus creusois, la seule chose que Paris leur a accordée.
40 ans après, voilà un nouvel épisode de l'affaire du petit Grégory, la grand-tante du gamin de 4 ans retrouvé mort dans la Vologne. Cette femme de 81 ans sera entendue vendredi à Dijon pour une possible mise en examen. Jacqueline Jacob a été désignée comme le corbeau dans cette affaire du petit Grégory. Aux États-Unis, après Washington, un autre maire démocrate, celui de Chicago, est en train de défier la politique de Donald Trump sur l'immigration. Brandon Johnson rejette le plan de l'administration de Trump qui envisage de déployer des agents fédéraux dans la troisième plus grande ville des États-Unis. Eh bien, à la demande du maire, la police locale ne sera pas autorisée à coopérer avec les autorités fédérales lors des contrôles d'immigration. Correspondance aux États-Unis d'Isabelle Labéry.
Il a convoqué les caméras dans son bureau et se tient debout, solennel, en costume et chemise noire, entouré d'une quinzaine de collaborateurs. Brandon Johnson dénonce la militarisation des contrôles d'immigration.
Nous ne voulons pas voir de chars dans nos rues. Nous ne voulons pas voir des familles déchirées. Nous ne voulons pas que des grands-mères soient jetées à l'arrière de fourgons banalisés. Nous ne voulons pas que des habitants soient arrêtés pour s'être assis devant chez eux. Ce n'est pas ce que nous sommes en tant que ville et ce n'est pas ce que nous sommes en tant que nation.
Le décret de Brandon Johnson rappelle qu'à Chicago, ville sanctuaire, la police municipale a déjà interdiction de collaborer avec les fédéraux. Mais le texte exige en plus que les agents de l'État portent sur eux une caméra, qu'ils soient identifiables. Il demande aussi au service juridique de la ville de tout faire pour contrer ce type d'opération.
Nous n'avons pas souhaité ça, mais nous devons y répondre. Prendre des mesures immédiates et drastiques pour protéger notre population des excès de pouvoir du gouvernement fédéral.
Pas de quoi faire trembler la Maison-Blanche qui accuse le maire de Chicago d'être atteint du syndrome anti-Trump et de se payer un coup de pub.
Isabelle Labérie aux États-Unis. Le ministre français des Affaires étrangères était aujourd'hui au Groenland et sur cette terre souvent recouverte de glace convoitée par Donald Trump. Eh bien, la télévision danoise a révélé cette semaine qu'au moins 3 Américains liés au président Donald Trump avaient mené des opérations d'influence au Groenland, méthode brutale, condamnée donc par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
Cette brutalisation se manifeste par la tentation redoublée de grandes puissances d'adopter à l'égard de leurs voisins des logiques de prédation. Par l'intimidation, par la contrainte, par le chantage, par la menace parfois, placer leurs voisins dans une situation d'asservissement. De ce point de vue-là, le Groenland n'est pas à prendre, le Groenland n'est pas à vendre. Et comme l'ont rappelé les autorités danoises et groenlandaises, les manœuvres récentes sont inacceptables et irrespectueuses. On ne construit pas la grandeur d'une nation sur la servitude de ses voisins et de ses alliés.
En sport, l'exploit du jour revient aux volleyeuses françaises. Elles ont battu la Chine, 5e nation mondiale. Les Bleus sont donc qualifiés pour les quarts de finale du Mondial qui se tient à Bangkok. Guillaume Batin, c'est même l'un des plus grands exploits de l'équipe de France féminine de volley.
Battre la Chine, 5e nation mondiale, en 4 manches, en 8e de finale. Personne ne voyait l'équipe de France féminine de volley-ball réaliser un tel exploit, le plus grand de son histoire. Et pourtant, les signes étaient là. Vainqueurs de la Ligue européenne en 2022 et la Challenger Cup en 2023, elles avaient aussi réussi à faire douter les Américaines aux Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a un an. Mais cette année, elles sont passées à la vitesse supérieure. En phase de groupe, les Bleus ont perdu de 2 points seulement au tie-break face au Brésil. Double championne olympique et prochain adversaire en quart de finale jeudi à Bangkok. Le secret, c'est d'y croire, résume la capitaine tricolore Elena Cazot, auteure de 23 points face à la Chine. 10 ans après l'équipe de France masculine, les filles du volley prennent enfin leur envol et rêvent de décrocher une médaille mondiale.
Encore un mot de basket, version masculine avec l'équipe de France qui s'est inclinée cet après-midi devant Israël, 82 à 69 lors de 3e match de l'Euro. Et donc la France devra patienter avant une éventuelle qualification en 8e de finale. On a appris ce soir la mort du président des musées d'Orsay et de l'Orangerie à Paris. Et il était président de ces institutions depuis avril 2024. Sylvain Amick est mort brutalement. Il avait 58 ans. La ministre de la Culture, Rachida Dati, salue un esprit ouvert et créatif. On évoquait tout à l'heure la rentrée scolaire. Il y a aussi une rentrée littéraire. Coup de cœur ce soir pour le dernier livre de Catherine Millet. L'écrivaine se confronte au suicide de sa mère 40 ans après. Catherine Millet est déjà l'autrice de 4 récits autobiographiques, dont La vie sexuelle de Catherine M, qui a été un succès mondial. Et bien cette fois, elle aborde le sujet intime du suicide de sa maman. Et à France Inter, Ilana Moriousef a trouvé ce livre magnifique d'intelligence.
Trouver la bonne distance, quel que soit le sujet, c'est peut-être le plus difficile pour un écrivain. La défenestration de sa mère, un matin de mars 82, Catherine Millet l'avait déjà évoqué dans d'autres livres. Mais il lui aura fallu plus de 40 ans pour s'y confronter vraiment. Elle le fait presque en critique d'art, des photos qu'elle scrute loupe à la main pour en extraire les détails significatifs, des micro-scènes qu'elle rapporte sans jamais s'apesantir. Le tout passé au crible de son intelligence suraiguë pour dresser le portrait d'une mère qui n'arrivait pas à vivre. Une jeune femme autrefois jolie et élégante qui abdique devant les épreuves de l'existence. Mais le pourquoi est une question vaine. Catherine Millet écrit de façon saisissante. On ne dit pas d'une personne qu'elle est morte de s'être suicidée. On n'en finirait pas de dire de quoi elle est morte, en effet, parce que sa mort ne conclut pas une vie. Elle ouvre sur une interminable suite d'interrogations.
Voilà, je reviens sur l'interview de François Bayrou. L'émission devait durer 1 heure. Elle dure 20 minutes de plus au moins. Elle dure encore en ce moment. Et puis je renvoie Je vous renvoie, les auditeurs, à l'interview. Demain, dans la grande matinale de France Inter, à 8h20, Nicolas Demorand et Benjamin Duhamel recevront Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Avant le point météo, retenez que demain, lundi, 10 départements du Sud-Est seront en vigilance orage. Le temps.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Eh bien, on va donc continuer à surveiller les orages sur le sud-est.
Oui, et ces orages devraient éclater dans la soirée. Ils seront violents avec de fortes rafales de vent, de la grêle et puis surtout, ils seront stationnaires. Ce qui va occasionner de forts cumuls de pluie sur tous ces secteurs qu'on va surveiller cette nuit et qu'on va retrouver demain pour la rentrée du Languedoc et ouest de la région PACA jusqu'au sud de la région Rhône-Alpes. Des averses, on en aura également en remontant vers l'Alsace et ces orages persisteront l'après-midi près de la Méditerranée. Ça va se calmer en remontant vers l'Alsace. Pour le reste du pays, le ciel sera plus changeant, des nuages, des éclaircies, un ciel de traîne finalement, où on aura encore quelques averses sur la façade atlantique et près de la Manche dès le matin. Elles se renforceront ces averses l'après-midi avec à nouveau quelques coups de tonnerre.
Et des températures à la baisse.
Oui, on le sentira dès le matin, 11 à 16 degrés seulement du nord au sud, 16 à 21 encore sur le sud-est. Quant au maximal, elles iront de 18 à 23 degrés en général. Toujours un petit peu plus près de la Méditerranée, même sous la pluie, 23 à 28 degrés, voire 27 à 32 degrés en Corse, où là, le ciel sera plutôt ensoleillé.
Céline Dacosta.